La saga d'Axel par Esaias Stegner. Chapitre 1er. Le vieux temps, mes chers. Le vieux temps de Charles XII, car il était joyeux comme la paix de la conscience, brave comme la victoire. Au pays du Nord, on voit encore rayonner à l'horizon un reflet de sa gloire, et dans la pourpre du soir, errer çà et là des ombres puissantes, en baudrier jaune, en habit bleu. Salut à vous, héros d'un siècle fameux, héros vêtus de peau de buffle et armés de longues glaives. J'ai connu dans mon enfance un de ces vieux compagnons de Charles. Il restait encore sur la terre comme un trophée en ruine. Sur sa tête centenaire brillait tout l'argent qu'il possédait, et les cicatrices de son front racontaient ce que racontent les runes sur une pierre funéraire. Il était pauvre, mais familiarisé avec la pauvreté, il se jouait avec elle. Il vivait encore de la vie des camps, dans la chaumière qu'il habitait dans la forêt. Cependant, il possédait deux joyaux, contre lesquels il n'eût pas échangé le monde, sa Bible et sa vieille épée, sur laquelle était gravé le nom de Charles XII. Les exploits du grand roi, qu'on retrouve aujourd'hui en 100 lieues divers, tant cet aigle a porté loin son vol, les exploits du grand roi étaient fixés dans le souvenir du vieillard, ainsi que les urnes des guerriers dans un tertre funèbre couronné de verdure. Ah! Lorsqu'il parlait d'un danger affronté par le roi, par son armée, comme il relevait fièrement la tête, comme ses yeux étincelaient. Chaque parole qui bondissait de ses lèvres frappait comme un coup de glaive. Ses récits du temps passé se prolongeaient souvent bien avant dans la nuit, et chaque fois qu'il nommait le roi Charles, il levait son vieux chapeau. Plein d'étonnement, je me tenais debout près de ses genoux, car alors je n'étais pas plus grand. C'est ainsi que je me souviens, depuis mon enfance, de ce représentant d'une race de héros. C'est ainsi que, depuis cette époque, plus d'un vague souvenir de saga reste enseveli dans ma mémoire, tel que l'iris qui dort dans sa semence sous la neige de l'hiver. Le vieillard repose chez les morts, que la paix soit avec sa cendre. Voici la saga qu'il m'a racontée. Écoute-la, ô Nord, et pleure avec moi sur le destin d'Axel. Auprès des paroles du vieux guerrier, mon simple chant est faible et languissant. Chapitre 2e. Le grand roi était à Bender. Déjà son pays avait été dévasté, son nom, naguère glorifié, livré à l'insulte. Tel qu'un guerrier blessé qui a senti le froid de la mort, son armée combattait à genoux derrière ses boucliers. L'espoir du salut avait fui de toutes les âmes, excepté de la sienne. Malgré la tempête qui feuilletait le livre du destin, malgré les secousses de la terre qui tremblaient, Charles restait calme, impassible, comme une voûte à l'épreuve de la bombe au milieu d'une ville incendiée, comme le roc battu par la vague en furie, comme la fermeté de l'âme sur un tombeau. Un soir, il dit à Axel, « Voici une lettre. Monte à cheval et cours nuit et jour vers la Suède. À ton arrivée, tu la remettras au Sénat. Pars ce soir même. Que Dieu t'accompagne. Salut pour moi nos vieux rochers. » Le jeune Axel aimait monter à cheval. Il prend la lettre avec joie et la coud dans son baudrier. Son père était mort à Olofzin, aux côtés du roi. Et l'orphelin, enfant des camps, avait grandi au milieu du bruit des armes. C'était une belle figure comme le Nord en produit encore quelquefois. Frais comme une rose, svelte et élancé comme les pins de la Suède. Son front libre à l'éclat d'un jour sans nuages. Le sérieux et l'honneur respirent dans tous ses traits. À la pureté de son œil, on voit qu'il peut élever ses regards avec espoir et confiance vers le Père de la Lumière, et les abaisser sans crainte sur celui qui n'aime que la nuit. Axel faisait partie des Drabants du roi, ses fiers parents de son âme. Son corps était peu considérable, car il ne se composait que de 7 hommes, comme les étoiles du chariot de Charles, au plus de 9, comme les filles de mémoire. Sévère dans le choix de ses membres qu'il faisait librement, il les éprouvait par le fer et par le feu. Les Drabants, successeurs chrétiens des Vikings, ne différaient guère de ceux qui sillonnaient jadis de leurs dragons l'azur des mers. Ils ne dormaient jamais dans un lit, mais sur leur cap étendu à terre, aussi tranquille au milieu des tempêtes et des frimas du nord que sur un gazon fleuri. Leurs mains faisaient plier un fer à cheval. Jamais vous ne les voyiez s'approcher de la flamme du foyer. Ils aimaient mieux se réchauffer en lançant des boulets rouges, rouges comme l'astre du jour, lorsqu'au soir d'hiver, ils se couchent dans le sang. C'était une loi parmi les Drabants que dans une action périlleuse, nul d'entre eux ne céda qu'après avoir combattu un contre sept et encore, la poitrine toujours tournée vers l'ennemi, car celui-ci ne devait point voir leur dos. Enfin, c'était une loi parmi eux, la loi difficile à observer, la plus difficile peut-être, de n'ouvrir son cœur à l'amour que lorsque le roi Charles aurait choisi lui-même une fiancée. En vain deux yeux brillaient d'un bleu céleste, en vain deux lèvres de rose souriaient, en vain deux signes d'une blanche gorge ondulaient sur leur lac, il fallait détourner la vue ou fuir. Les Drabants étaient consacrés à leur glaive. Donc Axel a scellé son coursier. Il marche nuit et jour. Il longeait les frontières de l'Ukraine quand, tout à coup, la forêt étincelle de sabres et de piques. Le brillant anneau se resserre. Tu portes une lettre de Bender. Descends, donne-la-moi, donne ou meurs. Un coup de sabre, telle fut la réponse d'Axel, sa réponse précise, sa réponse suédoise, et l'orateur, devenu humble, s'inclina sanglant vers la terre. Puis, s'adossant à un chêne, le jeune guerrier se mit à jouer son jeu. Partout où siffle sa lourde épée, un genou plie, le sang jaillit. Il accomplit glorieusement son serment. Ce n'est point un contre sept, ce serait peu, mais un contre vingt qu'il brandit son glaive. Il se bat comme Rolf Krake. Et pourtant il n'a plus d'espoir. Il ne frappe que pour avoir des compagnons dans la mort. Déjà mille blessures lui murmurent, de leur bouche de pourpre, sa dernière heure. Le sang s'assoupit autour de son cœur. Sa main, attachée à la garde de son épée, s'engourdit. Ses yeux s'obscurcissent. Épuisé, il tombe dans la longue nuit. Chapitre 3e. Allô ! La forêt retentit, et l'audacieux faucon et le chien fidèle poursuivent leur proie. Des chasseurs s'élancent au galop. À leur tête, sur un étalon tigré, rapide comme un tourbillon, paraît une amazone en robe verte, belle comme un rayon du jour. Les brigands épouvantés prennent la fuite, mais le coursier recule à l'aspect des morts, et la jeune fille saute à terre. Axel était là, gisant, tel qu'au milieu d'une forêt un chêne renversé sur les arbrisseaux par un ouragan du nord. Qu'il était beau, ainsi couché dans son sang. Marie restait penchée sur lui comme autrefois Diane, descendue du ciel à l'Atmos, loin du bruit de la chasse, restait penchée sur Endymion. Le jeune grec endormi qui charmait la déesse n'était pas plus beau qu'Axel. Marie surprend encore une étincelle de vie dans son sein mutilé, et sur un brancard de feuillage dressé à la hâte, elle fait porter doucement le pâle héros dans sa propre demeure. Assis à son chevet, pleine de compassion et de douleur, elle fixe sur ses traits décolorés un regard qui vaut un royaume. C'était comme la rose splendide des bosquets de la Grèce qui croît sans culture auprès d'une statue d'Hercule renversée. Axel sortit enfin de son évanouissement, et il regarda autour de lui et il commença à parler. Mais hélas, ses yeux, jadis si doux, maintenant, sont hagards et troublés. « Où suis-je ? Que veux-tu de moi, jeune fille ? Il n'est pas permis à une femme de me regarder. J'appartiens au roi Charles. Tes larmes ne doivent point tomber sur mes blessures. Mon père habite la Voie lactée, il s'irrite, car il a entendu mon serment. Qu'il est beau, cependant, le charme du tentateur, qu'il est séduisant. Loin de moi, Satan ! Où est mon baudrier ? Où est ma lettre ? Le roi Charles l'a écrite de sa propre main. Le glaive de mon père est bon, il mord surtout les moscovites. Quel plaisir j'avais à les frapper. Je regrette que le roi n'en ait pas été témoin. Il tombait comme les épimures sous la faucille. Il me semblait que j'étais moi-même couvert de sang. Je porterai ma lettre à Stockholm. Mon honneur y est engagé. Allons, les moments sont précieux. Ainsi parle Axel dans le délire de la fièvre. Et pâle comme la mort, l'ami des combats laisse retomber sa tête sur le pacifique oreiller. Et la vie et la mort se disputèrent, le jeune homme, mais la vie l'emporta, et le danger peu à peu s'évanouit, et Axel put contempler enfin d'un œil calme, quoique faible et obscurci, l'ange qui veillait à ses côtés. Ce n'était point une de ces beautés d'idylle qui errent et soupirent à travers les champs, images éternelles de l'ennui, avec des cheveux dorés comme les rayons du soleil, des joues teintes des violettes de la nuit, des yeux de myosotis. Marie était une fille de l'Orient. Sa riche et noire chevelure flottait autour de son cou, comme l'ombre de minuit autour d'un parterre de roses, et le courage inspiré par la joie, le seul vrai courage, brillait fier et noble sur son front, comme la statue de la victoire sur le tombeau d'une amazone. Son teint était frais comme celui que les peintres donnent à la couronne de l'aurore, sa taille, celle d'une oréade, sa démarche, harmonieuse et légère, les vagues de son sein se gonflaient de jeunesse et de santé. Corps de rose et de lys, âme de feu et de flamme, ciel d'été du midi, plein de parfums et de soleil. On voyait lutter dans ses yeux noirs un rayon du ciel avec un rayon de la terre. Tantôt son regard avait la fierté de l'aigle de Jupiter, tantôt la douceur des colombes qui tirent le char aérien d'Aphrodite. Oh, Axel, bientôt la douleur de tes blessures se sera apaisée. Les cicatrices seules resteront. Ta poitrine est guérie à la surface. Mais, hélas, comment va ton cœur? Ne regarde pas avec tant d'amour cette main attentive à bander tes blessures, cette main d'albâtre, cette main si douce ne doit point reposer dans les tiennes. Elle est plus dangereuse pour toi que l'année dernière à Bender les dures mains des Ottomans, avec leurs sabres recourbés et leurs pistolets, ces lèvres si roses et si fraîches, qui ne s'ouvrent que pour murmurer des paroles divines de consolation et d'espérance. Au lieu de les écouter, il te serait meilleur d'entendre encore une fois les tonnerres que le tsar Pierre faisait gronder à Poultava. Et si tu sors pendant la chaleur du jour, faible, chancelant, épuisé, appuie-toi, Axel, sur ton glaive, et non sur ce bras arrondi que l'amour a commandé, tout exprès, pour lui servir d'oreiller. Ô amour, merveille de la terre et du ciel, ô âme du bonheur, souffle frais de la divinité dans les bosquets étouffés de la vie, tu es le cœur de la nature, la consolation des hommes et des dieux. Dans la mer, la goutte cherche la goutte, et là-haut, les étoiles dansent d'un pôle à l'autre leur danse d'hyménée autour de leur soleil. Tu es encore dans le cœur de l'homme, comme un crépuscule du soir, comme un pâle souvenir de jours plus beaux, plus heureux, alors que dans le ciel, il habitait cette salle bleue, au lustre d'argent, où chaque soir, fatigué de ses jeux, il s'endormait sur les bras de son père. En ce temps-là, il était riche comme l'imagination, et son langage n'était qu'une prière, et il avait pour frère chaque bel ange des cieux. Mais hélas, il tomba sur la terre, et son amour perdit sa pureté. Cependant, auprès d'un être chéri, il ressaisit encore un trait de ses anciens amis du ciel. Il entend encore leur voix, dans les chants du printemps ou du Skald. Et il se réjouit de nouveau dans son cœur, ainsi que le Suisse voyageur lorsqu'il entend un air de sa patrie qui lui rappelle ses Alpes et les souvenirs de son enfance. Chapitre 4e. C'était un soir. Le crépuscule rêvait sur sa couche, à l'occident, et silencieuse comme les prêtres d'Égypte, les étoiles commençaient leur marche solennelle. La terre, dans ce beau soir, paraissait heureuse comme une fiancée qui porte la couronne nuptiale sur sa noire chevelure, et qui sourit et rougit sous le poil. Fatiguée des jeux du jour, la naïade se reposait tranquille et souriante, tandis que le crépuscule s'épanchait et brillait comme une rose splendide sur son sein. Les amours, que l'éclat du soleil tenait enchaînés, s'élançaient libres sur les rayons de la lune, armés d'arcs et de flèches, et folâtraient dans les bocages, sous ces mêmes arceaux de verdure par lesquels le printemps avait fait naguère son entrée. Le rossignol chantait dans les chênes, et son chant retentissait dans les vallées, aussi tendre, aussi chaste, aussi pur qu'un chant de Franzen. On eût dit que la nature annonçait son heure du berger. Tout était si plein de vie et pourtant si calme que tu aurais entendu battre ton cœur. Axel et Marie, le cœur ravi, s'avançaient l'un près de l'autre. Ainsi que les fiancés échangent leurs anneaux, ils échangeaient les souvenirs de leur enfance. Axel racontait ses heureux jours alors qu'il était dans la maison de sa mère, maison en bois de pin, teinte en rouge, située au milieu d'une forêt bien avant dans le nord. Il parlait de sa patrie bien-aimée, de ses frères et sœurs chéris, tous enlevés par la mort. Il disait comment, en maintes occasions, les antiques chansons guerrières, les livres des sagas reliés en parchemin, avaient éveillé son ardeur pour les exploits. Comment, dans les songes de la nuit, il s'était vu couvert d'une armure d'acier, monté sur Gran, ce coursier haut de 12 pieds, et chevauché comme Sigurd Fafnorsban à travers les flammes de Vafur pour se rendre auprès des filles de mémoire, dont le palais bâti sur un rocher, au milieu d'un bois de laurier, semblait au clair de lune environné de 1000 feux. Alors sa poitrine était oppressée, et il suffoquait dans sa chambre, et il fuyait à travers les bois, et il s'élançait avec une joie d'enfant jusqu'à la cime des pins, séjour de l'aigle, et là, balancé par les vents du nord, il sentait la fraîcheur pénétrer dans son cœur et caresser ses joues. Ah, que ne puis-je, sur ce nuage qui passe, m'envoler au loin, par-dessus la baie, vers ce monde radieux, où la victoire fait signe aux braves, où la renommée lui tresse des guirlandes, où le roi Charles, il n'a que 7 ans et demi de plus que moi, moissonne des couronnes avec son glaive et les distribue à l'instant comme un dieu. À 15 ans, ma mère ne me retint plus. Je me jetai en pleurant dans son sein et je partis pour la Pologne. Depuis, ma vie s'est écoulée dans les camps. Fidèle comme le feu de la vedette, elle a brûlé au milieu des canons et des armes. Mais s'il m'arrivait de rencontrer des oiseaux nourrissant leurs petits et se caressant, si je voyais un enfant jouer avec les fleurs sur le bord d'un ruisseau, alors le fracas des batailles me paraissait vide et l'image de la paix se dressait soudain dans mon âme avec ses épis dorés, ses joyeux enfants, ses bosquets de verdure. Et à la porte d'une paisible chaumière, une jeune fille m'apparaissait. Les rayons du soir illuminaient son visage, ce même visage que je voyais quelquefois dans mes rêves. Depuis quelque temps, ces 12 images sont continuellement présentes à mon esprit. Je ferme les yeux, et néanmoins, je les vois toujours vivantes, toujours claires. Et la jeune fille qui se montre au milieu d'elles, elle a tous tes traits, ô Marie. Marie, le cœur plein de troubles, répondit « Que l'homme est heureux cependant, le fort ne porte point de chaîne. Il appartient dès sa naissance à la race libre, et les charmes du danger et l'éclat de la gloire et le ciel et la terre, tout est à lui. Mais la destinée de la femme, c'est de servir l'homme pendant sa vie, c'est de panser ses blessures, oublier dès qu'elles sont guéries. Elle est la victime, lui, la flamme du sacrifice qui s'élève splendide vers le ciel. Mon père a succombé dans les armées du tsar. Je me souviens à peine de ma mère. Et la fille du désert a grandi, sans culture, dans ce château où l'esclave adore, dans les caprices du maître qui le possède, l'idole créée par sa bassesse. Un noble cœur méprise ces êtres si faciles à courber sous le joug. As-tu vu, dans nos immenses plaines, nos beaux coursiers sauvages? Braves comme le héros, légers comme la biche, ils ne connaissent pas de maître. L'oreille droite tournée vers le vent, ils s'arrêtent et flairent le danger, et soudain, dans un nuage de poussière, ils bondissent à travers la plaine et ils combattent leur propre combat avec leurs sabots libres de fer, et ils se réjouissent et ils souffrent. Ô libres enfants du désert, quelle est heureuse, quelle est belle votre vie dans ces vertes prairies. Et je priais la troupe indomptée de nous attendre chaque fois que mon tartare frémissant, esclave bridé, me portait auprès de ses frères. Mais ceux-ci, peu soucieux de m'obéir, passaient devant nous avec un regard de dédain. Mon âme altérée de liberté ne put supporter longtemps l'éternelle monotonie du château. J'appris à combattre le loup des forêts, les vautours de la montagne, et souvent j'ai racheté des griffes de l'ours une vie qui alors acquérait quelque valeur. Mais hélas, ô nature, nous ne pouvons te vaincre. Dans la chaumière comme sur le trône, fille de peine ou amazone, la femme est toujours femme. Être incomplet, vigne qui périt si elle n'est soutenue. Elle ne goûte point le bonheur s'il n'est partagé. Ses joies naissent jumelles. Je sens s'agiter dans mon cœur un trouble qui n'est pas sans douceur. Un vague désir de l'inconnu, désir poignant et pourtant plein de charme. Il est sans borne, sans but. On dirait des ailes qui m'emportent loin de la terre, loin de l'infime poussière, vers les étoiles, vers la demeure des dieux. Mais bientôt je retombe sur la terre, et je reviens à vous, être chéri, à vous, arbre, qui avez grandi avec moi, colline à la cime fleurie, ruisseau qui murmure l'amour. Je vous ai entendu, je vous ai vu 1000 fois, mais indifférente comme une statue. C'est à présent seulement, à présent que je vous aime. Mon amour pour moi s'est attiédi. Un sentiment plus élevé, plus pur, a pénétré dans mon âme depuis. Ici une douce rougeur passa sur les joues de la jeune fille, un soupir étouffé acheva sa phrase interrompue. Et le rossignol chante dans la forêt, et la lune se cache derrière un nuage et écoute, et dans un long, dans un éternel baiser, chaud comme la vie, fidèle comme la tombe, Axel et Marie aspirent les voluptés d'une ineffable harmonie. Ils s'embrassent, comme deux flammes qui, partant de l'autel des sacrifices, s'unissent à mesure qu'elles montent vers le ciel, jusqu'à ce qu'elles ne forment plus qu'une seule colonne lumineuse. Pour eux, le monde s'est évanoui, le temps s'est arrêté dans sa course. Car si chaque moment dans cet univers périssable a sa mesure et sa limite, le baiser de la mort et le baiser de l'amour sont enfants de l'éternité, qu'ils sont heureux. La terre serait dévorée par l'incendie, qu'ils n'en verraient point les flammes. La voûte du ciel s'écroulerait, qu'ils n'entendraient pas le bruit de sa chute. Ils resteraient là, bouche contre bouche, tels que les génies du midi et du nord, et ils seraient passés, sans le sentir, à la félicité céleste du sein du bonheur de la terre. Axel revient le premier de son extase. Par Montglaive, par la gloire du nord, par ces étoiles blanches fiancées qui brillent à travers les bosquets, devant la terre, devant le ciel, tu m'appartiens. Ah, que ne puis-je, loin, bien loin des combats, dans quelques vallées amies, au milieu des montagnes, séjour de la paix, que ne puis-je vivre et mourir avec toi? Mais hélas, un serment me lie. L'œil menaçant, les joues pâles, il étend silencieux sa main de glace entre nos deux cœurs brûlants. Ne t'effraie point. Ce serment veut être délié et non brisé. Il faut que je parte. Quand mai nous rappellera ses fêtes de fleurs, compte sur mon retour. Alors je reviendrai chercher ma fiancée, mon épouse. Adieu, ô moitié de mon âme, adieu jusqu'à ce jour, long adieu. En disant ces mots, Axel se détourne, prend son baudrier et son glaive, et recommence bravement sa course à travers les 100 provinces du tsar. Il se cache dans les bois pendant le jour. Il dirige sa course sur le point central du ciel, sur l'étoile fixe de notre nord et sur le chariot protecteur de Charles, ce chariot timon d'argent, aux roues enrichies de clous d'or, dont l'essor ne fléchit jamais. C'est ainsi qu'à travers 1000 dangers, à travers les escadrons ennemis, Axel arrive à la ville royale du Malard. Là, tous écoutent avec étonnement le récit de la délivrance du héros et il porte au Sénat la lettre et le salut du roi, comme Charles l'avait ordonné. Chapitre 5e. Cependant, dans ces salles désertes, Marie soupire le nom d'Axel. Elle le soupire dans les forêts, elle l'apprend aux montagnes et aux vallées. Quel est ce serment qui le lie? Une jeune fille de son pays? Un amour plus ancien? Peut-il y avoir plus d'un amour? Mon cœur me dit non. Ô Vierge du Nord vêtue de neige, l'une de nous doit mourir. Tu ne connais point les flammes du midi, j'irai te chercher au-delà de tes bas glacés, de tes rochers couverts de frimas, tu mourras. Mais Axel n'a-t-il pas quitté le Nord dès son enfance? Depuis cette époque, il n'a point revu sa patrie, et le timide amour fuit le bruit des camps. Non, Axel n'est point menteur. La fidélité et l'honneur brillent, seuls, sur un front comme le sien. J'ai vu, à travers la pureté de son regard, j'ai vu le fond de son cœur, comme le jour voit le fond de la source fraîche et argentée. Pourquoi donc me fuir? Que t'impose ton serment? Est-ce de briser ce cœur? Hélas, ma voix meurt dans l'espace. Je suis la veuve qui soupire au milieu des tombeaux, la colombe qui porte sa plainte à travers la terre et le ciel et qui ne trouve point de réponse. Ah, les bois murmurent, les flots bouillonnent entre nous, il ne m'entend point. Si je le suivais? Non, cela ne sied point à une femme, qui le saura? Que je prenne un glaive, un homme sera à ma place. J'ai souvent joué avec le danger, ayant pour enjeu la vie ou la mort. Je suis solide sur mon cheval, et jamais ma balle n'a manqué son but. Oui, c'est un Dieu qui m'inspire. Axel, Axel, tu es à moi. Maintenant je te chercherai dans le nord, je te chercherai par toute la terre, de vallée en vallée, de rivage en rivage. J'arracherai ton serment à tes lèvres. Oh, guerre, prends-moi sur tes ailes et porte-moi jusqu'au pays d'Axel. Ainsi dit, ainsi fait. La résolution et l'action ne font qu'un chez la femme. Marie hâte sa métamorphose. Sous le casque du guerrier, elle cache sa noire chevelure. Elle emprisonne sa belle gorge dans le buffle, remplit son sac de poudre et de plomb et suspend à son épaule délicate le télescope de la mort, une carabine. Un sabre recourbé brille à sa ceinture si célèbre dans les fables de la Grèce. Elle tire une ombre autour de ses lèvres pour lui tenir lieu de barbe. On dirait deux roses couronnées d'un crêpe funèbre. Marie, avec son glaive et son baudrier, ressemblait à cet amour déguisé en héros que le fils de Clinias avait fait peindre sur son splendide bouclier. Adieu, maison paternelle. Un jour, avec l'amour et le bonheur, je te reviendrai. Maintenant, je dois partir. Ô nuit, enveloppe-moi dans tes voiles et porte-moi vers l'ami de mon cœur. Sur le rivage de la conquête, dans un coin de l'œil du nord endormi, s'étendait la ville du tsar Pierre. alors peu considérable, elle ressemblait au fond de son golfe à un dragon nouveau-né. Mais déjà l'instinct se révélait dans le jeune monstre, qui déroulait ses anneaux sur l'arène échauffée par le soleil. Déjà le poison bouillonnait dans sa dent, déjà il sifflait de sa langue fendue. Là, on armait contre les rivages de la Suède une flotte de morts et d'incendies. Marie s'avance au milieu des drapeaux et des glaives et demande une place sur un navire. Un des chefs de ces bandes sauvages la regarde fixement et s'écrie « Jeune homme, tu me parais plus dangereux pour les Vierges du Nord que pour ces guerriers. Quelque part que nous te conduisions, ils ne pourront guère te prendre par la barbe, mais ils t'enseigneront à fond la science de la guerre. Celle que nous faisons est une guerre à mort. Dieu seul et Saint Nicolas en connaissent l'issue. » Et la voile s'enfle, et la proue fend les flots écumeux, et bientôt, à la lueur du crépuscule, on voit se dresser les montagnes de la Suède. Elles sont encore là debout, ces antiques et gigantesques tombes de la nature, malgré les incessants ravages des flots et du temps. On aborde au récit de Sota, rivage aimé des cœurs fidèles. C'est là qu'autrefois le jeune Hjalmar dit son dernier adieu à la belle Ingeborg. Là, Ingeborg mourut de douleur, quand le guerrier remonta vers Odin. Son esprit reste encore sur le rocher, pleurant son bien-aimé. « Oh, le cadre du Nord, le Nord oublie ton nom si fameux au jour des sagas. Mais le chant funèbre de Hjalmar ne t'a point oublié. Tu vivras éternellement dans le cœur du Skald. » Mais déjà, le village brûle auprès du village. Les enfants crient, les femmes prennent la fuite. On connaît la manière dont les Russes font la guerre, et le tocsin sonne nuit et jour, sans repos. Hélas, il ne réveille pas les morts. Malheur à toi, région infortunée, l'ennemi te change en désert. La tombe dévore tes guerriers. Cependant, le danger de la patrie rassemble encore une troupe de vieillards et d'enfants, armés de ces épées qui, dans les champs de la Germanie, avaient servi sous les drapeaux de Gustave Adolphe, de ces hallebardes habitués à vaincre, à l'époque où elles franchissaient le Belt, enfin de quelques mousquets à la batterie rouillée, à la mèche fumante. C'était là tout ce qui restait à la Suède, une petite troupe mal armée. Néanmoins, elle marche bravement et résolument à l'ennemi. Ce dernier ne lutte point soldat contre soldat. Il déroule au loin son nuage. Il lance la foudre du haut de rocher que nul courage ne saurait affronter. Et la mort vole, incessante et impunie, à travers les rangs décimés. Alors, tel que Thor, en courroux, armé de son marteau et ceint du baudrier de la force, Axel s'élance sur le champ de bataille, où tout est en proie à la terreur et à la fuite. C'est un ange protecteur envoyé dans la détresse. Sa poitrine est d'acier, son bras, la mort. Il rétablit le combat. Il vole de rang en rang sur son blanc coursier. « Arrêtez, Suédois, serrez vos rangs. Le roi Charles m'envoie vers vous. Je vous apporte son salut. Que notre cri de ralliement soit « Dieu et le roi Charles !»« Dieu et le roi Charles !» répète aussitôt toute la troupe. Elle a compris l'appel du brave, et le rocher qui vomissait la mort est emporté d'assaut. Alors toutes les bouches de l'abîme se ferment. La plaine est jonchée d'armes et de cadavres. Le glaive furieux porte des coups aveugles, mais assurés, sur le dos des fuyards en désordre, et les brigands épouvantés se hâtent de couper les câbles pour s'arracher au rivage. Chapitre 6e. Tel qu'une bête sauvage repue, le combat dormait étendu sur la plaine, et du haut du ciel la lune éclairait cette immense dévastation. Sur les bords de la baie couverte des ombres de la nuit, accélérait, en soupirant au milieu des morts. Les voilà tous par couple, guerriers contre guerriers, comme ils s'étreignent fortement. Veux-tu voir un embrassement fidèle? Ne regarde point celui de l'amour. C'est celui de deux êtres qui s'adorent et qui sourient. Va plutôt sur un champ de bataille. Tu y verras comment la haine, dans les angoisses, étreint son ennemi contre son cœur. Ah, l'ivresse de l'amour et de la joie se dissipe comme le murmure des vents printaniers. Mais la haine, la douleur et la misère sont fidèles jusque dans la tombe. » Ainsi Axel soupire. Tout à coup il entend, dans l'ombre de la nuit, une voix qui gémit. « J'ai soif, Axel. Donne-moi de l'eau et reçois mes adieux avant que je meure. » À cette voix si connue, Axel se précipite à travers les rochers. Il aperçoit un jeune homme inconnu appuyé contre la montagne, blessé, sanglant. En même temps, la lune sort d'un nuage et éclaire son visage décoloré. Axel tressaille. « Ah ! » s'écrie-t-il. « Seigneur Jésus, c'est elle !» Hélas oui, c'était elle. Elle s'efforce de maîtriser ses souffrances, et d'une voix faible et haletante, elle dit « Bonsoir, Axel, ou plutôt bonne nuit. » « car la mort est déjà assise près de mon cœur. Ne me demande point ce qui m'a amené ici. Mon amour seul m'a conduite. Ah, lorsque cette longue nuit commence, lorsque l'homme touche aux portes du tombeau, comme il voit d'un autre œil, et la vie et les vains soucis de la vie, un amour beau comme le nôtre, voilà le seul trésor que l'on emporte au ciel. J'ai voulu connaître le serment que tu as juré. Maintenant je vais le demander aux étoiles, c'est là qu'il est écrit, et j'y verrai ton innocence aussi pure que leur splendeur. J'ai agi imprudemment, je le sais. Je sais aussi que tu me pleureras avec sincérité. Pardonne-moi, à cause de mon amour, chaque larme que tu verseras sur ma cendre. Je n'ai ni frère, ni père, ni mère. Tu étais tout pour moi. Oh, Axel, à cette heure suprême de la mort, jure que tu m'as aimé. Tu le jures. Puis-je donc me plaindre encore? La vie m'a raconté la plus belle partie de sa saga. Ta Vierge ne peut-elle pas bien mourir sur ton cœur? Sa cendre ne reposera-t-elle pas en paix, dans un pays que tu viens toi-même de défendre? Regarde, Axel, un nuage passe sur la lune. Quand il aura disparu, je serai morte. Et mon âme transfigurée reposera sur l'autre bord, où elle priera pour ton bonheur, et d'où elle te contemplera avec tous les yeux du ciel. Plante une rose étrangère sur ma tombe, et lorsque cette fille du soleil périra ensevelie sous la neige, pense à ta bien-aimée qui dort aussi sous la neige du nord. Les jours de sa floraison ont été courts. Vois, Axel, le nuage a disparu. Adieu, adieu. Marie soupira, serra la main de son amant et mourut. Alors surgit des fleuves de l'abîme, non la mort, mais sa jeune sœur, la pâle folie. Ses cheveux épars sont couronnés de pavots. Son œil hagard se fixe tantôt sur le ciel, tantôt sur les profondeurs de la terre. Le sourire contracte ses lèvres, des larmes brillent dans ses yeux à demi éteints. Elle touche le front d'Axel, et dès lors l'infortunée erre sans cesse autour du tombeau de Marie, comme les morts des antiques sagas autour de leurs trésors cachés, et le rivage retentit, jour et nuit, de ses déchirantes et sinistres plaintes. Silence, silence, vague bleue, ne bondis pas ainsi contre la rive, tu troubles mes songes. Je n'aime point tes courants orageux, leur écume est parfois mêlée de sang, tu apportes la mort jusque sur ses bords. Ici gisait tout à l'heure un jeune homme couvert de sang. J'ai parsemé sa tombe de roses, car il ressemblait, je sais à qui. J'irai la chercher au printemps. Ils disent que la terre endort ma fiancée et que l'herbe croît sur son cœur fidèle. Mensonge. Elle était assise cette nuit sur le flanc du rocher. Elle était pâle comme on peint la mort. Mais cette pâleur venait des rayons de la lune. Ses lèvres et ses joues étaient froides, mais ce froid venait du vent du nord. J'ai prié ma bien-aimée de s'arrêter. Elle a passé son doigt sur mon front et il s'est appesanti. Et les ténèbres l'ont enveloppé. Puis la lumière a reparu de nouveau. C'est bien loin, à l'Orient, qu'ont brillé ces jours, hélas déjà passés, ces beaux jours, ces jours célestes. Ah, qu'il était heureux alors, Axel. Un château s'élevait au milieu des verts bosquets, le château de la belle jeune fille. J'étais couché dans la forêt, frappé à mort, elle m'a rendu la vie avec un baiser. Elle m'a donné, à moi, pauvre, son cœur si riche et si brûlant. Hélas, il gît là, maintenant glacé dans son sein flétri. Tout est perdu. Oh, étoile qui brillait dans les cieux, je vous en supplie, éteignez vos flambeaux et disparaissez. Je connais une belle étoile du matin, elle s'est perdue dans une mer de sang. Une odeur de sang s'élève encore du rivage, ma main elle-même est tachée de sang. Ainsi Axel se lamente sur le rocher de Sota. Il est là quand le jour se lève, il y est encore quand la nuit tombe. Toujours à la même place, toujours pleurant. Un matin, il resta mort sur le rivage. Ses mains étaient jointes comme pour la prière. Ses larmes avaient été à demi gelées sur ses joues pâles par la brise matinale et ses yeux éteints restaient encore fixés sur le tombeau de Marie. Chapitre 7e. Telle est la saga qui m'a été racontée. Quelle tendre, quelle profonde émotion elle me causa. Bien que 30 hivers aient neigé depuis, je la sens toujours vivante dans mon cœur, car un burin puissant, un burin ineffaçable grave dans l'âme du poète les souvenirs de l'enfance. Ils y habitent comme Aslog dans l'harpe du roi Heimer, jusqu'à ce que, trahissant leur origine divine, ils apparaissent splendidement vêtus avec des cheveux d'or et un regard royal. Ah, le ciel de l'enfance est parsemé de lyres d'or, et tout ce que l'homme invente plus tard d'héroïque grandeur de grâce fleurie, lui était déjà paru sous des formes plus belles aux yeux de son premier âge. Maintenant encore, lorsque l'alouette chante dans les verts gazons, lorsque la lune s'élance des mers de l'Orient, telle que le spectre du sein des tombeaux, et penchant sur les vallées et sur les montagnes, les lugubres teintes de la mort, je crois entendre murmurer à mon oreille la vieille voix, la voix bien connue, qui me racontait la destinée d'Axel et de sa fiancée. Ainsi s'achève la saga d'Axel par Esaias Tegnar.